Cinémag avec Cédric Sequinel.
Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Cinémag, votre magazine du cinéma et des séries sur Radio Grand Ciel. Bon, ça fait maintenant plus de 4 mois que nous sommes confinés et on essaye quand même de toujours vous proposer des nouveautés disponibles sur les plateformes de streaming. Et si on a eu droit à des films assez ratés, on a quand même pu voir d'assez jolies surprises. Donc tant que le confinement perdure, on continuera à vous présenter des nouveautés. Et aujourd'hui, je vais donc vous présenter un film un peu bizarre, pas vraiment réussi, mais pas vraiment raté non plus, et dont l'actrice vient en plus d'être récompensée au dernier Golden Globes. Je veux parler de I Care A Lot, disponible sur la plateforme Netflix, un film écrit et réalisé par Jay Blakeson avec Rosamund Pike et Peter Dinklage. Tout d'abord présenté au Festival du film de Toronto, il a été acheté immédiatement par Netflix, mais aussi par Amazon Video, qui se sont ainsi répartis les droits à travers le monde. Et ils l'ont tous fait sortir le même jour, à savoir le 19 février. Donc c'est un film qui est extrêmement récent. I Care A Lot nous raconte l'histoire de Marla Grayson, une arnaqueuse professionnelle qui demande légalement la tutelle de personnes âgées et incapables de se débrouiller toutes seules. Elle les place alors dans des maisons de retraite et vend leurs biens, se faisant une grosse marge au passage. Et si parfois elle doit faire de faux certificats de faiblesse par une amie docteur, c'est pas non plus un problème, c'est pour ça que c'est une arnaqueuse. Elle ne vit que sur la misère de ces pauvres gens. Et d'ailleurs, la docteur lui donne une nouvelle proie, une vieille femme riche et en plus sans famille, Jennifer Peterson, qui n'est pas malade du tout. Mais voilà, Marla et son ami docteur vont monter en quelques heures un faux certificat d'incapacité et Marla se retrouve nommée par un juge pour devenir la tutrice donc de Jennifer. Et elle devient, comme elle se nomme, son ange gardien. Alors, pas vraiment un ange gardien. Donc, si Jennifer refuse en bloc l'aide de Marla, elle doit vite se rendre compte qu'elle n'a pas le choix, puisque c'est un juge qui l'a ordonné. Et elle va se retrouver immédiatement enfermée dans une maison de repos, un hôpital où elle est privée de son téléphone et de ses droits les plus élémentaires, pendant que Marla va en profiter pour dépouiller sa maison, la mettre en vente, et prendre ses bijoux. D'ailleurs, c'est pas la première, Marla, elle a au moins 80 personnes à qui elle joue ce sale tour tout le temps. Le problème, c'est que ce que Marla et sa petite amie Fran, qui travaille avec elle, ne savent pas, c'est que Jennifer, c'est pas vraiment une personne âgée, sans défense et sans famille. D'ailleurs, ce n'est pas son vrai nom. Donc cet imbroglio va mener Marla et Fran à confronter un groupe de mafieux russes, pas vraiment sympathiques, et qui vont aller aux pires extrémités pour faire sortir Jennifer de sa prison médicale. Pour tout vous avouer, je sais pas vraiment quoi penser de ce film. Bon, il est catalogué comme une comédie noire, je suis pas tout à fait d'accord. Le film commence en effet comme un film d'arnaque classique, sans aucun moment drôle, voire même aucune situation décalée. De fait, la partie comédie, elle est amenée au bout peut-être d'un quart d'heure, 20 minutes, je ne sais pas, uniquement par la description des mafieux, qui sont tous débiles, voire totalement ridicules. Ils font n'importe quoi, ils ont pas des têtes de mafieux, ils agissent n'importe comment. On place des personnages un petit peu absurdes au milieu de situations qui sont très concrètes. Ok, ça a déjà été fait plein de fois, mais pour moi, la sauce n'a pas pris. Autant les frères Cohen, ils arrivent à faire ça très bien, autant là, je suis quand même extrêmement dubitatif. Le réalisateur Jay Blakeson, qui a écrit aussi le scénario, et qui avait réalisé entre autres La Cinquième Vague, je crois, un film de science-fiction qui n'a pas eu de suite, le réalisateur juxtapose à mon sens plusieurs éléments, mais il a beaucoup de mal à les relier entre eux. De fait, I Care A Lot, ça donne plus l'impression d'un film qui est constitué d'une succession de passages de styles différents, plutôt qu'une comédie pensée d'un bloc qui va nous emmener dans un endroit et dans un autre. Le mélange des genres, personnellement, moi, il m'a pas convaincu du tout. Et puis, il y a vraiment des choses bizarres, hein. Notamment une utilisation de la musique assez décalée, beaucoup de sons techno qui apportent rien du tout à la scène, hein. Ça ne rajoute pas dans l'émotion, juste une espèce d'impression de décalage, et ça marche pas du tout. La musique, là, pour le coup, elle est totalement à côté. Je vous passe aussi une scène où la petite amie de Marla arrive à se débarrasser de mafieux russes sans pitié avec un sac en papier. Alors oui, ça donne un aspect comique à la situation, mais bon, à mon sens, vu qu'aucun élément comique n'a été instauré avant dans le film, bah ça met tout simplement l'intrigue en porte-à-faux. Surtout qu'il y a, hein, dans le film, de nombreux événements tragiques. Mais par ces changements de style, bah, I Care A Lot n'arrive pas vraiment à nous immerger dans son histoire et à nous faire prendre ses personnages en pitié ou à avoir de la compassion pour eux. Moi, je me suis toujours senti un tout petit peu en dehors de ce que le réalisateur a voulu nous montrer. Et franchement, c'est assez gênant, hein. L'interprétation de Peter Dinklage, qui jouait donc dans la série Game of Thrones, en mode « je suis un peu énervé et je jette toujours des bouteilles contre les murs », ça rajoute à la confusion des genres et un petit peu au ridicule du film. Autant vous dire que la première heure du film, hein, qui en dure deux, était vraiment difficile. Je savais pas où on voulait aller, je savais pas trop ce que ça voulait nous montrer. J'étais vraiment pas du tout convaincu. Pourtant, le film arrive à retomber plutôt pas trop mal sur ses pattes. En effet, hein, lorsque les choses commencent à tourner vinaigre pour Marla et ses complices, le film devient immédiatement plus dramatique. On a vraiment l'impression qu'on rentre dans un polar un peu noir, et certaines scènes, hein, je pense notamment à celle de la noyade, sont vraiment bien réalisées. Après, on pourra toujours regretter que de terribles mafieux, etc., soient bêtes comme leurs pieds et puis font tout pour faciliter la revanche de Marla, hein. Mais ça passe un petit peu mieux. Voilà, le twist final, car oui, désormais, hein, c'est obligatoire. Il faut toujours un retournement de situation à la fin d'un film. Il est plutôt bien vu et assez immoral sur le fond. Ce qui gêne aussi dans la mesure où on n'est jamais rentré dans des questions de moralité. Et puis c'est aussi un peu le souci que j'ai avec ce film, hein, finalement. Aucun des personnages n'est gentil. Ce sont tous des crapules qui n'hésitent jamais à profiter des faiblesses des autres, à les tuer, à les mettre dans des maisons de retraite pour prendre leurs biens. Du coup, c'est quand même vachement difficile d'avoir de l'empathie pour ce qui arrive à Marla. Elle le mérite amplement. Et donc, les scènes un peu tragiques qui tournent autour d'elle, ça tombe à l'eau. On a même droit à un double retournement de situation avec une fin, vraiment la dernière scène du film, qui ramène un peu de morale. Ok, d'accord, ça passe un peu mieux. Mais bon, c'est pas très convaincant quand même, hein. Même si je vous le dis, la deuxième partie est quand même nettement meilleure. Alors, niveau interprétation, il y a du bon et du mauvais. Encore une fois, j'ai pas vraiment aimé ce que nous a proposé Peter Dinklage. Mais bon, je pense que c'est son rôle, hein, qui veut ça. C'est la direction d'acteur plus que l'acteur lui-même, hein. Quant à Rosamund Pike, si sa prestation elle est correcte, moi je suis pas certain qu'elle mérite clairement son Golden Globe, hein. Alors qu'on ne s'y méprenne pas, hein, Rosamund Pike, c'est une excellente actrice, on avait pu la voir dans Gone Girl de David Fincher récemment, et dans le film, elle est quand même carrément au-dessus de tous les autres acteurs, hein. Mais encore une fois, c'est pas si difficile, hein. Elle a les meilleurs dialogues, elle a les meilleurs costumes, elle a le personnage le plus complexe, elle est quasiment dans toutes les scènes du film, donc c'est pas difficile de briller par rapport aux autres. Voilà. I Care A Lot, est-ce qu'il faut le regarder ou pas? Je sais pas, j'ai un avis un petit peu mi-figue, mi-raisin. Pour un film, sur le fond, il est plaisant, hein, il se regarde, voilà. Mais j'ai trouvé qu'il était peut-être un tout petit peu trop superficiel et pas assez maîtrisé. Donc, si vous avez envie de voir quand même une actrice primée, hein, après tout, je suis peut-être passé à côté, hein, on n'en sait rien. Je peux vous conseiller donc de regarder I Care A Lot, disponible depuis le 19 février sur la plateforme Netflix.
Cinémag avec Cédric Sequinel.
Notre deuxième partie, je vous emmène maintenant à Baltimore, une ville où le trafic de drogue se trouve à chaque coin de rue et où la population vit dans un état de pauvreté inimaginable. À la suite de la mort d'un témoin important contre l'un des barons de la drogue les plus forts de la ville, on décide, enfin tout du moins les officiels de Baltimore, de monter une brigade policière spéciale formée d'inspecteurs de tous bords. C'est, et vous l'aurez reconnu si vous connaissez la série, le point de départ de The Wire, sur écoute en version française, qui est certainement l'une des toutes meilleures séries depuis l'histoire des séries télévisées. Écrite par David Simon, journaliste de métier qui a travaillé dans les journaux de Baltimore, elle se base sur la vie et les expériences d'Ed Burns, un ancien policier de Baltimore, qui est devenu aussi instituteur. Elle a été diffusée, hein, The Wire, sur la chaîne HBO à partir de 2002, et vous pouvez la retrouver sur OCS. Vous allez me dire, encore une série policière sur les trafics de drogue, on en a déjà vu plein, et je vous répondrai, d'accord. Bah, sauf que The Wire, en fait, elle se distingue de ses concurrentes sur énormément de points. Tout d'abord, chacune des saisons, et il y en a 5 au total, est centrée sur une enquête et met en exergue un aspect sociétal de la ville, même si le trafic de drogue reste omniprésent hein, dans tous les épisodes. La première saison, elle est centrée sur les dealers, ok, mais la deuxième est centrée sur le port de Baltimore, la troisième, elle va parler des affrontements politiques à l'intérieur de la ville, la quatrième, quant à elle, elle va nous parler de l'éducation et du système scolaire, tandis que la cinquième est un petit peu plus orientée vers la presse. Nous avons donc droit à un peu plus qu'une enquête, hein. Et cette série, c'est quasiment un documentaire. Tout a été vérifié, tout a été vécu, et ce principe de réalisme à outrance ne fait finalement que renforcer l'aspect coup de poing de The Wire. Alors l'idée de génie, c'est aussi d'avoir proposé les rôles principaux à des acteurs qui n'étaient pas encore trop connus, ou carrément à des civils de Baltimore qui sont complètement immergés dans leur rôle. Par exemple, on a proposé un rôle à quelqu'un qui venait de sortir de prison. Voilà. Alors ça renforce évidemment l'aspect docu-réalité de la série. En plus, les acteurs ont travaillé l'argot de la rue de Baltimore pour être encore plus crédibles. D'ailleurs, hein, on remarquera au passage quelques acteurs qui finalement ont eu une grande carrière après la série. En commençant donc par Idris Elba, que vous avez pu voir dans la série Luther, mais aussi dans l'adaptation de La Tour Sombre au cinéma, ou encore dans Thor. On pourra noter aussi la présence de Aidan Gillen, le Littlefinger de Game of Thrones, ou encore Michael B. Jordan, qu'on a pu voir aussi dans Creed, la suite de Rocky, et qui faisait le méchant dans Black Panther. Mais bon, limiter The Wire à une simple série réaliste avec des bons acteurs, bah ce serait un peu trop rapide. C'est une série qui est riche en thèmes, qui est surprenante, et qui tente énormément de choses dans son processus narratif. Par exemple, il n'y a jamais de cliffhanger dans The Wire, ni même de musique. Toutes les saisons sont complètement auto-contenues, et je vous assure que c'est tout simplement exceptionnel. En dehors, allez, un petit bémol sur la dernière saison que je trouve un petit peu en dessous, bah je vous mets tout simplement au défi de ne pas être touché, voire de ne pas verser une larme par ces histoires, ces tranches de quotidien terribles qui, quoi qu'il arrive, bah vont se terminer de manière tragique. Il y a une sorte de répétition, de cycle infernal dans The Wire bah, qui vous laisse forcément à la fin une grande impression de tristesse. En tout cas, moi, c'est l'une des séries qui m'a le plus touché, notamment les saisons 1, 2 et 4. Et c'est triste, c'est vraiment déprimant de réalisme. Mais qu'est-ce que c'est bien ! Donc, une grande série, disponible sur OCS et que je ne saurais vous conseiller. Voilà, bah écoutez, c'est la fin de notre émission. J'espère qu'elle vous aura plu. Et puis, ben moi, je vous donne rendez-vous à très très vite pour de prochaines aventures. Et en attendant, comme je vous le dis à la fin de chaque semaine, prenez soin de vous. À très bientôt.